Emeltszintű írásbeli érettségi vizsga francia nyelvből. Harmadik vizsgarész, hallott szövegértése.
Cher candidat, vous allez passer l'épreuve de compréhension orale. L'épreuve est composée de 3 textes. Vous entendrez chaque texte 2 fois. Vous avez reçu un cahier avec les exercices à faire. Chaque texte commencera et finira par une musique suivie de la consigne. Vous aurez, par la suite, un peu de temps pour lire les questions. Puis, vous écouterez le texte une première fois. Vous aurez, de nouveau, un peu de temps pour étudier les questions et pour y répondre. Puis, vous écouterez le texte une deuxième fois. Vous aurez, à la fin, un peu de temps pour vérifier vos réponses. Si vous corrigez, faites des corrections évidentes. L'épreuve durera 30 minutes. Vous allez entendre un reportage sur les expériences faites dans l'espace. Avant les écoutes, lisez le texte résumant l'émission. Ensuite, vous entendrez le reportage 2 fois. Complétez le texte. La réponse 0 vous servira d'exemple. Maintenant, lisez le résumé. Vous avez un peu de temps à votre disposition. Maintenant, vous allez écouter le reportage.
Bonjour et bienvenue à tous dans Rayon X. Aujourd'hui, un homme ou bien une femme dans l'espace, ça nous paraît presque banal. Mais avant d'y parvenir, pour étudier les réactions d'un organisme vivant dans des conditions aussi particulières, on a préféré expérimenter sur des animaux. La première tentative a été effectuée à bord d'une fusée, dans laquelle un singe nommé Arthur fit son premier voyage spatial en 1948. Quelques années plus tard, la célèbre petite chienne Laika fut le premier animal à quitter l'orbite terrestre en 1957 pour ne jamais revenir. Dans les années 70, les fusées ont embarqué des poussins dans le but d'étudier comment les animaux dorment dans l'apesanteur. Plus récemment, ce sont des escargots, des insectes ou encore des lézards qui ont reçu leur ticket pour l'aventure spatiale. En fait, les animaux n'ont pas toujours le comportement prévu par les chercheurs. À bord de Skylab, la première station orbitale américaine lancée en 1973, les astronautes avaient réussi à installer un aquarium. Et ce n'était pas une mince performance. Vous le savez bien, un satellite artificiel en orbite autour de la Terre ne subit qu'une très faible influence gravitationnelle de notre globe. Ceci se traduit par une absence de pesanteur. dramatique pour des poissons. Parce que, dans ces conditions, l'eau de l'aquarium est en suspension dans son bocal. Il n'y a plus ni fond, ni surface. Et les pauvres bêtes ressemblent plutôt à des animaux de voltige totalement incontrôlés. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'au bout de quelques jours, tout s'équilibre et les animaux s'orientent parfaitement. Exactement comme s'ils avaient choisi ensemble un même point de repère. Et qu'il s'agisse des abeilles ou encore des araignées avec leur toile, on retrouve la même étonnante facilité d'adaptation. La preuve, s'il en fallait, qu'ici comme ailleurs dans l'univers, et même la tête en bas, rien n'est impossible.
Maintenant, vous avez un peu de temps pour réfléchir. Commencez à écrire vos réponses. Maintenant, vous allez écouter le reportage une deuxième fois.
Bonjour et bienvenue à tous dans Rayon X. Aujourd'hui, un homme ou bien une femme dans l'espace, ça nous paraît presque banal. Mais avant d'y parvenir, pour étudier les réactions d'un organisme vivant dans des conditions aussi particulières, on a préféré expérimenter sur des animaux. La première tentative a été effectuée à bord d'une fusée, dans laquelle un singe nommé Arthur fit son premier voyage spatial en 1948. Quelques années plus tard, la célèbre petite chienne Laika fut le premier animal à quitter l'orbite terrestre en 1957 pour ne jamais revenir. Dans les années 70, les fusées ont embarqué des poussins dans le but d'étudier comment les animaux dorment dans l'apesanteur. Plus récemment, ce sont des escargots, des insectes ou encore des lézards qui ont reçu leur ticket pour l'aventure spatiale. En fait, les animaux n'ont pas toujours le comportement prévu par les chercheurs. À bord de Skylab, la première station orbitale américaine lancée en 1973, les astronautes avaient réussi à installer un aquarium. Et ce n'était pas une mince performance. Vous le savez bien, un satellite artificiel en orbite autour de la Terre ne subit qu'une très faible influence gravitationnelle de notre globe. Ceci se traduit par une absence de pesanteur. Dramatique pour des poissons. Parce que, dans ces conditions, l'eau de l'aquarium est en suspension dans son bocal. Il n'y a plus ni fond, ni surface. Et les pauvres bêtes ressemblent plutôt à des animaux de voltige totalement incontrôlés. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'au bout de quelques jours, tout s'équilibre et les animaux s'orientent parfaitement. Exactement comme s'ils avaient choisi ensemble un même point de repère. Et qu'il s'agisse des abeilles ou encore des araignées avec leur toile, on retrouve la même étonnante facilité d'adaptation. La preuve, s'il en fallait, qu'ici comme ailleurs dans l'univers, et même la tête en bas, rien n'est impossible.
Vous avez maintenant un peu de temps pour compléter et vérifier vos réponses. C'était la première partie de l'épreuve. Vous allez entendre des informations sur une nouveauté technologique. Avant les écoutes, lisez les questions. Ensuite, vous entendrez le texte deux fois. Répondez aux questions. La réponse 0 vous servira d'exemple. Maintenant, lisez les questions. Vous avez un peu de temps à votre disposition. Maintenant, vous allez écouter le reportage.
Le livre de cuisine du futur est déjà une réalité. Si vous aimez cuisiner et qu'en plus vous êtes un tantinet geek, voici pour vous le joujou idéal. Un livre de cuisine électronique. Et plus encore! Cela s'appelle Cook et c'est en fait un petit ordinateur tablette, ultra plat, sans clavier et à écran tactile, exclusivement dédié à la cuisine. Au programme, 500 recettes présentées par des grands chefs, dont une dizaine en vidéo. Le système propose un service interactif de planification des repas, avec même des fonctions spéciales pour adapter vos menus aux membres de la famille qui ont des goûts spéciaux. Par exemple, ceux qui n'aiment pas les courgettes ou aux membres de famille qui suivent un régime alimentaire, par exemple ceux qui ont le diabète. Il y a aussi un outil pour faire ses courses en ligne grâce à la connexion Internet. La particularité de ce joujou très luxueux, il faut bien le dire, c'est son design rouge Ferrari et son écran tactile. Quand on a les mains dans la pâte, pas besoin de chercher des boutons. Il suffit de faire glisser ses doigts sur l'écran, comme sur un iPhone, pour faire apparaître les images et défiler les textes. Ensuite, un coup de chiffon suffit pour nettoyer l'appareil qui est protégé par un revêtement spécial. Problème, le prix. 350€ environ, juste pour faire la cuisine, alors qu'on trouve sur le marché, pour le même prix, des micro-ordinateurs netbook qui peuvent faire plein d'autres choses en plus. En fait, le Cook est cher en raison de son design sophistiqué et surtout de sa simplicité d'utilisation et de la convivialité de l'interface. Ce produit est une invention française mise au point par la société You Know Why. En fait, il peut servir également de cadre photo et à surfer sur Internet ou écouter des web radios. On peut également accéder à 2500 recettes supplémentaires et à 500 vidéos à condition de souscrire un abonnement de 12,95€ par mois. Un drôle d'appareil qui ouvre la voie à un nouveau concept, les petits ordinateurs dédiés à la maison.
Maintenant, vous avez un peu de temps pour réfléchir. Commencez à écrire vos réponses. Maintenant, vous allez écouter le reportage une deuxième fois.
Le livre de cuisine du futur est déjà une réalité. Si vous aimez cuisiner et qu'en plus vous êtes un tantinet geek, voici pour vous le joujou idéal. Un livre de cuisine électronique. Et plus encore, cela s'appelle Cook et c'est en fait un petit ordinateur tablette ultra plat, sans clavier et à écran tactile, exclusivement dédié à la cuisine. Au programme, 500 recettes présentées par des grands chefs, dont une dizaine en vidéo. Le système propose un service interactif de planification des repas, avec même des fonctions spéciales pour adapter vos menus aux membres de la famille qui ont des goûts spéciaux. Par exemple, ceux qui n'aiment pas les courgettes ou aux membres de famille qui suivent un régime alimentaire, par exemple ceux qui ont le diabète. Il y a aussi un outil pour faire ses courses en ligne grâce à la connexion Internet. La particularité de ce joujou très luxueux, il faut bien le dire, c'est son design rouge Ferrari et son écran tactile. Quand on a les mains dans la pâte, pas besoin de chercher des boutons. Il suffit de faire glisser ses doigts sur l'écran, comme sur un iPhone, pour faire apparaître les images et défiler les textes. Ensuite, un coup de chiffon suffit pour nettoyer l'appareil qui est protégé par un revêtement spécial. Problème, le prix. 350€ environ, juste pour faire la cuisine, alors qu'on trouve sur le marché, pour le même prix, des micro-ordinateurs netbook qui peuvent faire plein d'autres choses en plus. En fait, le Cook est cher en raison de son design sophistiqué et surtout de sa simplicité d'utilisation et de la convivialité de l'interface. Ce produit est une invention française mise au point par la société You Know Why. En fait, il peut servir également de cadre photo et à surfer sur Internet ou écouter des web radios. On peut également accéder à 2500 recettes supplémentaires et à 500 vidéos à condition de souscrire un abonnement de 12,95€ par mois. Un drôle d'appareil qui ouvre la voie à un nouveau concept, les petits ordinateurs dédiés à la maison.
Vous avez maintenant un peu de temps pour compléter et vérifier vos réponses. C'était la deuxième partie de l'épreuve. Vous allez entendre une émission de la radio LCI sur une découverte importante. Avant les écoutes, lisez les affirmations. Ensuite, vous entendrez le reportage deux fois. Mettez un V pour les affirmations vraies et un F pour les affirmations fausses. La réponse 0 vous servira d'exemple. Maintenant, lisez les affirmations. Vous avez un peu de temps à votre disposition. Maintenant, vous allez écouter l'émission.
Les scientifiques l'ont baptisé Ötzi. Il mesure 1,59 m et pèse 40 kg. Son corps a été retrouvé dans le massif des Alpes tyroliennes à 3200 mètres d'altitude. Les experts, non pas ceux de Las Vegas mais du Tyrol, tentent de reconstituer les circonstances de sa mort. Rassurez-vous, Ötzi est mort il y a plus de 5000 ans. Pour les archéologues, Ötzi est une mine d'or. Son corps, miraculeusement préservé par les glaces, a été retrouvé par deux randonneurs en 1991 à la suite d'un été caniculaire. L'état de conservation de cet hibernatus était tellement bon que l'on avait même cru au début à un canular. Mais après examen, les faits étaient bien là. L'homme retrouvé momifié dans les glaces était bien mort au début du Néolithique, il y a 5300 ans. Depuis 20 ans, il fait l'objet de toutes les attentions, car non seulement son corps est parfaitement conservé, mais les vêtements qu'il portait et les petits outils de pierre qui étaient dans ses poches nous apportent des informations. Ötzi est un trésor intact du Néolithique. Ses os, son ADN, tout a été analysé. Après examen de son estomac, on peut même dire 5000 ans après quel a été son dernier repas. Mais aujourd'hui, les chercheurs se querellent sur les raisons de sa présence dans les montagnes. Les traces d'une grave blessure à l'épaule droite avaient au départ laissé penser aux archéologues allemands que Ötzi était arrivé dans les montagnes après une fuite éperdue pour échapper à des assaillants et qu'il était ensuite mort seul, de froid et d'épuisement. Mais une équipe de scientifiques italiens avance une nouvelle théorie. Pourquoi un homme blessé à mort et affaibli par une course dans la neige se serait-il chargé d'un arc? Non, Ötzi serait mort, certes en combattant, mais dans la vallée, et son corps aurait en fait été acheminé en grande pompe par ses proches dans la montagne. À l'appui de cette théorie, les photographies du site montagneux où Ötzi a passé sous la glace les 5 derniers millénaires. Mais surtout, l'analyse des pollens trouvés dans son estomac. Des pollens présents uniquement en plaine et au printemps. La tribu de notre hibernatus aurait donc attendu la fonte des neiges pour le transporter vers sa sépulture d'altitude, avec les honneurs dus à son rang. Car Ötzi n'aurait pas été un simple fuyard, mais bel et bien un personnage important de la tribu. Les chercheurs italiens font d'ailleurs remarquer que jusqu'au XVIe siècle, c'était une pratique courante dans cette région que de conserver le corps des personnes mortes en hiver pour les enterrer au printemps, lorsque la neige avait fondu. Normal, le sol était trop dur pour qu'on puisse le creuser. Bien entendu, les deux théories de la mort de Ötzi ont leurs partisans qui s'affrontent. Le débat atteindra son point culminant l'année prochaine, lors du 20e anniversaire de la découverte de l'hibernatus. Tous les chercheurs qui travaillent sur son corps se réuniront alors et une équipe allemande présentera même son génome intégral. Au-delà de l'analyse des causes de sa mort, l'étude de la dépouille de Ötzi reste l'une des plus importantes sources de connaissances du mode de vie des hommes de cette époque du Néolithique.
Maintenant, vous avez un peu de temps pour réfléchir. Commencez à écrire vos réponses. Maintenant, vous allez écouter l'émission une deuxième fois.
Les scientifiques l'ont baptisé Ötzi. Il mesure 1,59 m et pèse 40 kg. Son corps a été retrouvé dans le massif des Alpes tyroliennes à 3200 mètres d'altitude. Les experts, non pas ceux de Las Vegas mais du Tyrol, tente de reconstituer les circonstances de sa mort. Rassurez-vous, Ötzi est mort il y a plus de 5000 ans. Pour les archéologues, Ötzi est une mine d'or. Son corps, miraculeusement préservé par les glaces, a été retrouvé par deux randonneurs en 1991 à la suite d'un été caniculaire. L'état de conservation de cet hibernatus était tellement bon que l'on avait même cru au début à un canular. Mais après examen, les faits étaient bien là. L'homme retrouvé momifié dans les glaces était bien mort au début du néolithique, il y a 5300 ans. Depuis 20 ans, il fait l'objet de toutes les attentions, car non seulement son corps est parfaitement conservé, mais les vêtements qu'il portait et les petits outils de pierre qui étaient dans ses poches nous apporte des informations. Ötzi est un trésor intact du néolithique. Ses os, son ADN, tout a été analysé. Après examen de son estomac, on peut même dire 5000 ans après quel a été son dernier repas. Mais aujourd'hui, les chercheurs se querellent sur les raisons de sa présence dans les montagnes. Les traces d'une grave blessure à l'épaule droite avaient au départ laissé penser aux archéologues allemands qu'Ötzi était arrivé dans les montagnes après une fuite éperdue pour échapper à des assaillants et qu'il était ensuite mort seul, de froid et d'épuisement. Mais une équipe de scientifiques italiens avance une nouvelle théorie. Pourquoi un homme blessé à mort et affaibli par une course dans la neige se serait-il chargé d'un arc? Non, Ötzi serait mort certes en combattant, mais dans la vallée, et son corps aurait, en fait, été acheminé en grande pompe par ses proches dans la montagne. À l'appui de cette théorie, les photographies du site montagneux où Ötzi a passé sous la glace les 5 derniers millénaires, mais surtout l'analyse des pollens trouvés dans son estomac. Des pollens présents uniquement en plaine et au printemps. La tribu de notre hibernatus aurait donc attendu la fonte des neiges pour le transporter vers sa sépulture d'altitude, avec les honneurs dus à son rang. Car Ötzi n'aurait pas été un simple fuyard, mais bel et bien un personnage important de la tribu. Les chercheurs italiens font d'ailleurs remarquer que jusqu'au XVIe siècle, c'était une pratique courante dans cette région que de conserver le corps des personnes mortes en hiver pour les enterrer au printemps, lorsque la neige avait fondu. Normal, le sol était trop dur pour qu'on puisse le creuser. Bien entendu, les deux théories de la mort d'Ötzi ont leurs partisans qui s'affrontent. Le débat atteindra son point culminant l'année prochaine, lors du 20e anniversaire de la découverte de l'hibernatus. Tous les chercheurs qui travaillent sur son corps se réuniront alors et une équipe allemande présentera même son génome intégral. Au-delà de l'analyse des causes de sa mort, l'étude de la dépouille de Ötzi reste l'une des plus importantes sources de connaissances du mode de vie des hommes de cette époque du néolithique.
Vous avez maintenant un peu de temps pour compléter et vérifier vos réponses. L'épreuve de la compréhension orale est terminée.
Vége a harmadik vizsgarésznek.